Le journal de la mi-journée avec Jérôme Val. Bonjour.
Bonjour à tous. C'est une nomination qui ne passe pas alors qu'elle n'est même pas encore officielle. Le nouveau PDG d'Air France doit être connu dans l'après-midi. A priori, Benjamin Smith, un Canadien. Et c'est bien ça qui pose problème pour les syndicats. Inconcevable selon eux de nommer un dirigeant étranger. Le ton se durcit en Italie contre la société qui gère le pont qui s'est effondré à Gênes avant-hier. Beaucoup de critiques alors que le titre de la maison mère a chuté en bourse ce matin. Le groupe Atlantia qui a des participations dans plusieurs entreprises en France. En attendant, les riverains du viaduc sont toujours sous le choc et se sentent abandonnés. Reportage dans un instant. Sans surprise, le président sortant du Mali a été réélu. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu plus de 67% des voix. Le policier qui a tiré mortellement sur un automobiliste mardi soir à Paris est toujours en garde à vue. Beaucoup de questions restent en suspens ce midi. La météo, Sébastien Léa, c'est un temps estival pour ce jeudi.
Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Après-midi largement ensoleillé ou légèrement voilé sur la majeure partie du pays avec des températures au-dessus des normales de saison, variant entre 25 et 33 degrés. Des averses et des orages risquent quand même de se développer en montagne et puis une perturbation pluvieuse à bord de la Bretagne et le Cotentin cet après-midi. Cette perturbation va rentrer un petit peu plus dans les terres au fil des heures et pourra être précédée d'ondées orageuses en soirée et en cours de nuit.
Et dans ce journal également, le secret de la momification et une rentrée littéraire où les premiers romans se font une place au soleil.
France Inter.
Pas encore connu, pas encore nommé, mais déjà contesté. Air France doit donc se trouver aujourd'hui un nouveau patron à l'issue d'un conseil d'administration, 3 mois après la démission de Jean-Marc Janaillac. Un nom circule avec insistance depuis plusieurs jours, celui de Benjamin Smith, numéro 2 d'Air Canada. Mais ce matin, 9 syndicats de la compagnie française ont rejeté sa candidature. Inconcevable de nommer, disent-ils, un dirigeant étranger. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Alors Maxime, c'est quoi le problème?
Le problème, c'est déjà la forme, le moment choisi. On est mi-août, le lendemain d'un jour férié, tout le monde est à la plage et voilà que les syndicats sont informés par la presse du nom de leur futur patron. Il y a quelque chose qui sonne faux pour Karim Tebi de Force Ouvrière qui représente le personnel au sol.
Ça fait 3 mois qu'on n'a pas de président directeur général. Et tout d'un coup, il faut vite nommer un Canadien à la tête de la holding Air France KLM. Au moment où il y a les vacances du pouvoir politique, au moment où les dirigeants du COMEX Air France sont en vacances, on fait un conseil d'administration par téléphone pour nommer un dirigeant à la tête de la holding. On a de sérieuses interrogations.
Sur la forme, il y a également le salaire qui pourrait être 3 fois supérieur à celui du patron sortant. À l'heure où les salariés réclament un retour de leurs efforts, c'est compliqué. Et puis, vous l'avez dit, il y a le fond, le fait que pour la première fois, Air France KLM ne serait plus dirigée par un Français. Et ça, clairement, ça ne passe pas.
J'en ai marre dans ce pays que, à la tête de grands groupes, on nomme des étrangers. Vous allez dans les compagnies américaines, il n'y a aucun étranger. Vous allez en Allemagne, le groupe Lufthansa, essentiellement que des Allemands. Le secteur aérien est un secteur stratégique. Et nous, Air France KLM, on met un Nord-Américain à la tête. C'est incompréhensible.
L'intersyndicale qui vise dans son communiqué de ce matin l'actionnaire Delta Airlines, détenteur de 9% du capital et qui aurait, selon les syndicats, réussi à dicter sa loi.
Et à l'instant, une dépêche Reuters nous apprend que l'État devrait voter en faveur de la nomination de Benjamin Smith comme directeur général d'Air France. C'est donc ce que croit savoir de sources gouvernementales Reuters. Des questions encore 2 jours après l'effondrement du pont Morandi de Gênes. La police italienne fait état ce matin d'un bilan de 38 morts sans préciser combien de personnes étaient encore portées disparues dans les décombres. Pour les riverains du viaduc, le cauchemar ne fait que commencer, eux qui n'ont plus rien. Delphine Evenou, bonjour. Vous vous trouvez au centre municipal de Buranello qui coordonne les aides aux rescapés et aux riverains. Et vous avez rencontré, Delphine, un couple qui a tout vu de la catastrophe.
Gavino et Wendy viennent ici tous les jours chercher un peu à manger et une oreille aussi pour les écouter, les soulager de la terreur qu'ils ont vécue mardi, leur fille en première ligne.
Elle a vu le pont tomber, elle a vu l'orage et la pluie, elle me demandait « Pourquoi la pluie est si méchante? Pourquoi c'est arrivé ?» C'était dramatique. Elle pleurait, elle criait avec sa chaussure à la main. « Papa, papa, mets-moi la chaussure, on doit s'échapper. » Je suis ensuite revenu sur les lieux pour porter secours aux gens. J'ai sorti une famille entière morte dans une voiture. C'était indescriptible.
Le couple a tout perdu et Gavino enchaîne les coups de fil pour recoller les miettes de leur vie. Le couple qui a refusé l'hôtel pour aller chez des amis. Leurs enfants ont besoin de repères.
Ma fille va mal. Elle ne dort pas la nuit. Elle se réveille en criant « Le pont. Elle en a déjà trop vu.
La voix de Wendy se noue, le couple est tremblant, choqué et en colère.
De ce pont, pendant des années, sont tombés des boulons, des gravats, des morceaux, toutes sortes de choses. On a envoyé 1000 signaux d'alarme. Ça tombait sur les voitures, sur les immeubles. Il y a eu de nombreuses plaintes déposées pour dégradation. Ce pont était dangereux. C'était écrit dans le ciel qu'il était dangereux.
Wendy et Gavino refusent toutefois de désigner un coupable. Ils ont pour l'instant autre chose à penser.
Merci Delphine Evenou avec les moyens techniques de Romain Luquin. Ça gêne. Et l'État a annoncé hier une aide de 5 millions d'euros pour aider les 630 personnes qui habitaient en contrebas de ce pont. Et le débat continue pour déterminer les responsabilités dans ce drame avant même les conclusions de l'enquête judiciaire. Le gouvernement a menacé dès hier de retirer la concession de cette autoroute à son exploitant Autostrade per Italia. Coupable tout désigné pour Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur dénonce sur Twitter l'impassibilité du groupe, son portefeuille plein et son cœur vide. L'entreprise appartient à un géant, le groupe italien Atlantia, dont le titre a dégringolé de 24% ce matin à la Bourse de Milan. Il a même été suspendu pendant près d'une heure à l'ouverture des cotations. La firme sort donc fragilisée de cette catastrophe, alors qu'elle a des intérêts partout en Europe. Grégoire Lecalou.
Le nom d'Atlantia est à peu près inconnu du grand public, mais les structures qu'il détient ou dans lesquelles il a des intérêts font presque partie du quotidien. Jadis public, sous le nom d'Autostrade, le groupe a été privatisé en 1999 et il est contrôlé à 30% par la famille Benetton, présente dans au moins 6 pays grâce à ses participations. Atlantia s'est fortement développé en France ces deux dernières années. Sur son cœur de métier, les autoroutes, il est entré en mars dernier au tour de table du troisième réseau français, la SANEF, via la prise de contrôle de son propriétaire espagnol Abertis. Au printemps toujours, Atlantia réussit un coup de maître en devenant actionnaire principal du tunnel sous la Manche, avec 15,5% du capital de Getlink, son opérateur, ex-Eurotunnel. Le groupe est aussi présent dans le tunnel du Mont-Blanc à travers Autostrade per l'Italia, la société gestionnaire du pont de Gênes. Depuis deux ans, Atlantia s'intéresse aussi au ciel français grâce à la privatisation de l'aéroport de Nice, détenu à 65%. Il vise maintenant la troisième plateforme aéroportuaire du monde, Aéroport de Paris, Roissy et Orly, qui doivent être privatisées l'an prochain.
Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta vient d'être réélu. Les résultats de l'élection présidentielle sont tombés il y a une heure et demie. Bonjour Bertrand Caliché.
Bonjour Jérôme.
Ibeka, comme on le surnomme, a recueilli plus de 67% des voix.
Oui, un résultat sans surprise. La réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta a été prédite depuis 48 heures par son équipe de campagne qui s'attendait à une victoire large et confortable face à Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances. Succès contesté à l'avance par l'opposition. Elle dénonce un scrutin truqué à la faveur de l'insécurité qui règne dans le pays. Les observateurs envoyés par l'Union européenne parlent, eux, d'irrégularité mais n'ont pas constaté de fraude. Le scrutin n'a guère passionné les Maliens. Un peu plus d'un tiers d'entre eux se sont rendus aux urnes pour ce second tour. À 73 ans, voilà donc Ibeka remis en selle pour un nouveau mandat, 5 ans après son arrivée au pouvoir. Pendant cette période, le président malien a changé 5 fois de Premier ministre, un turnover qui s'expliquerait par le caractère très entier et clivant du chef de l'État. Ibrahim Boubacar Keïta va devoir relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion Touareg. Depuis, la violence n'a pas été éradiquée au Mali. Les zones de menace djihadistes se sont plutôt déplacées du nord vers le centre du pays. Mais le président réélu assume son bilan. Il a promis, dit-il, de consolider les acquis, amplifier les réussites et corriger les manques.
Une nouvelle attaque ce matin à Kaboul, cette fois contre un centre d'entraînement des services de renseignement. Des échanges de tirs sont en cours, affirme le porte-parole de la police de la capitale afghane. Hier déjà, un attentat suicide devant une école dans le quartier chiite de Kaboul avait fait 34 morts. Une attaque revendiquée ce matin par l'organisation État islamique. Toujours beaucoup de questions en suspens ce matin au deuxième jour de la garde à vue d'un policier à Paris qui a été prolongé. Il a mortellement tiré sur un homme de 26 ans à l'issue d'une course-poursuite dans les rues de la capitale dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête est ouverte pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et il subsiste ce midi, Emmanuel Leclerc, beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier.
Un responsable policier proche du dossier hier soir était persuadé qu'il y aura ouverture d'une information judiciaire à l'issue de cette garde à vue de 48 heures avec la nomination d'un juge d'instruction indépendant à partir du moment Oui, il y a eu mort d'homme, mais c'est aussi parce que plusieurs questions très sensibles se posent depuis la fin tragique de cette course-poursuite dans les rues de la capitale. La principale, évidemment, c'est de savoir s'il était légitime pour le jeune gardien de la paix d'ouvrir le feu, ce qui pour l'instant semble le cas pour Loïc Lecouplier, le délégué Île-de-France du syndicat Police Alliance, joint par Aurore Richard.
Quand l'individu, une fois encore, met en danger la vie d'autrui, à savoir le cyclomotoriste, mon collègue, pour protéger cette personne, visiblement, fait feu. Sauf élément d'enquête nouveau dont je ne dispose pas, pour nous le tir est effectivement légitime.
On sait que le policier a tiré alors que le conducteur de la voiture reculait pour se dégager et venait de taper le scooter et son chauffeur, celui-là même qui a aidé le gardien de la paix à poursuivre le chauffard dans les rues de la capitale. Les enquêteurs de l'IGPN et de la première DPJ en charge de cette affaire doivent donc établir dans un premier temps si cette manœuvre présentait un danger suffisant pour justifier l'ouverture du feu. Et sur ce point crucial, les avis divergent très sérieusement au sein de la police depuis mardi soir.
Du repos pour les 141 migrants de l'Aquarius qui ont pu poser le pied à terre hier à Malte après 5 jours passés en mer. Et maintenant, eh bien, les opérations pour mettre en pratique la répartition de ces migrants vont débuter. On connaît le nombre des personnes qui viendront en France, 60, mais qui et à partir de quand? L'autre interrogation, c'est le devenir de ces migrants une fois arrivés en France. Nous sommes en ligne avec Didier Lesky. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à ce titre l'un des acteurs du suivi de ces personnes. Didier Lesky, est-ce que tout est prêt pour accueillir ces 60 migrants? Où est-on dans l'urgence?
Non, nous ne sommes pas dans l'urgence parce que ça fait partie des opérations, je dirais, régulières que mène la France et qui consistent à relocaliser des personnes, soit de Malte, soit d'Italie, soit de Grèce. Sur l'ensemble des deux dernières années, la France a totalisé à peu près 20% des relocalisations qui se sont déroulées au niveau européen. Et du reste, avant l'arrivée des 60 de Malte, nous allons accueillir la semaine prochaine les 24 personnes qui étaient arrivées en Espagne au début du mois d'août.
Alors en ce moment, à Malte, il y a une majorité d'Érythréens et de Somaliens, des non-francophones donc. Est-ce que ça peut compliquer leur démarche en France, ne serait-ce que pour trouver un logement et à moyen terme, un emploi?
Alors, on est d'abord dans une première phase qui est celle de l'obtention du statut de réfugié. Elles l'auront dans des délais très rapides grâce à la diligence de l'OFPRA. Et puis après, effectivement, il y a tout le problème d'intégration des personnes qui ne parlent pas le français et qui n'ont pas nécessairement un niveau de qualification qui leur permette d'être employables immédiatement. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui est l'accès en particulier au logement, puisque là, elles vont avoir qu'un hébergement. Et c'est une question difficile. Aujourd'hui, nous avons 13 à 14 000 réfugiés statutaires qui sont dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et qui ont du mal à sortir dans le logement, comme elles ont aussi du mal à trouver un emploi. On a un cercle qui est très difficile à briser, puisqu'il faut des revenus pour accéder à un logement et il faut un logement où après on peut trouver un emploi.
Est-ce qu'il existe des cours de français, par exemple, pour accélérer leur intégration?
Il y a des cours de français, si vous voulez. La difficulté, en particulier quand les personnes viennent de pays qui n'ont pas qui sont pas des pays francophones, les cours vont être de 400 heures bientôt, mais c'est un apprentissage long pour avoir une connaissance du français qui permette l'employabilité. Aujourd'hui, par exemple, même dans des secteurs comme le bâtiment, il faut connaître un minimum le français pour pouvoir lire les consignes de sécurité, ce qui fait qu'on ne peut pas être directement employable comme on l'était avant dans des secteurs de peu de qualifications.
On ne connaît pas évidemment encore leurs intentions précises, mais est-ce qu'on sait si ces 60 personnes qui vont arriver en France ont l'intention d'y rester durablement ou est-ce qu'elles ont d'autres visées pour aller dans d'autres pays européens?
Alors, normalement, elles sont auditionnées avec cette idée qu'elles veulent venir en France, mais ça c'est le rôle de l'OFPRA. Mais vous avez raison de souligner le fait qu'il nous est arrivé que des personnes qui ont été amenées en France, préfèrent après aller dans des pays où elles pensent, à tort ou à raison, qu'elles ont des meilleures perspectives, en particulier économiques, pour accéder à l'autonomie. C'est le problème que nous avons régulièrement à Calais, par exemple, où les personnes veulent absolument aller en Angleterre, et ça pose des problèmes d'ordre public. et ce n'est pas forcément la meilleure solution pour eux du reste.
Didier Leschi, depuis la première crise en juin, les États de l'Union européenne n'ont pas réussi à trouver un mécanisme automatique d'accueil des migrants. On est dans une gestion plutôt au cas par cas. Plusieurs voix se sont élevées pour le dénoncer, vous aussi ?
Ce que je constate, moi, en tant que fonctionnaire, c'est que la France fait avec l'Allemagne l'essentiel de l'effort en termes de relocalisation des personnes qui arrivent, en particulier par bateau, et que là, il y a un décalage au niveau européen entre les différentes zones et les différents pays. Les personnes, par exemple, ne restent pas en Espagne. Je rappelle que l'Espagne, c'est l'année dernière 4500 statuts de réfugiés accordés, alors que la France, c'est 43 000. On a un déséquilibre qui se fait au niveau européen, à la fois du fait du choix des migrants, mais aussi du fait qu'un certain nombre d'États se refusent à participer de la solidarité collective.
Didier Leschi, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un entretien que nous avons enregistré dans la matinée. C'est le coup de pouce très attendu par 3 millions de familles aux revenus modestes au moment d'acheter les fournitures scolaires. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. Elle a été revalorisée de 1% par rapport à l'an dernier. Son montant varie en fonction de l'âge de vos enfants. Tous les détails pratiques sont à retrouver sur notre site internet franceinter.fr. Et si ce n'est pas encore fait, il vous reste encore plusieurs semaines pour vous faire connaître auprès de votre caisse d'allocation familiale. Le débat ressurgit régulièrement. Faut-il interdire les animaux dans les cirques ? Des militants pour la défense animale avec des masques de zèbres et de lions sur la tête se retrouvent en ce moment à Paris, près du centre Pompidou. Cette association Zoopolis dénonce, je cite, « l'hypocrisie de la ville de Paris concernant l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques ». Ses membres étaient il y a quelques jours à Alfortville, dans le Val-de-Marne. C'est là que s'est installé illégalement un cirque. Valentin Dunat s'est rendu sur place.
Tony Artigue est acrobate, jongleur et dresseur. Il nourrit ses animaux trois fois par jour, des chevaux, des lamas,
lui c'est Serge Lama,
un dromadaire ou encore un watouzi, une vache africaine de la famille des zébus.
Quand on a notre publicité qui est faite, les gens viennent au cirque et ils prennent pas part à ces gens qui ont des porte-voix pour dire crier à mort les cirques. Ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ils ont le droit. Nous aussi on a le droit, nous aussi on a des droits, et puis nos animaux on les a, et puis ils sont bien, et puis ils sont comme d'autres animaux, soit dans les parcs zoologiques ou dans le centre équestre aussi. Il y a des chevaux qui sont dans les boxes, les chevaux de course, ils sont dans les boxes.
Les services vétérinaires de la préfecture du Val-de-Marne ont contrôlé ce cirque la semaine dernière, un contrôle qui n'a donné lieu à aucune procédure de sanction. Quant à son installation illégale, Tony Artigue assume.
Bon, j'ai été à la mairie plusieurs fois me présenter, donc il m'a dit pourquoi vous n'êtes pas venu me voir avant. Ben, j'ai dit, ça fait 8 mois qu'on a envoyé des demandes, et puis ça fait 8 mois qu'on n'a rien du tout. Alors, donc voilà. À mon avis, ils n'ont pas voulu, parce que bon, ça fait des années, ça fait 11 ans qu'il n'y a pas de cirque ici.
La mairie d'Alfortville maintient qu'elle n'a jamais reçu de demande. Elle a donc lancé une procédure en référé au tribunal de Créteil qui sera traitée après le départ des forains. Tony Artigue viendra se défendre, mais ne sait toujours pas où il installera son chapiteau avec sa femme et ses 4 enfants.
Ce sont des témoignages du passé toujours aussi troublants et fascinants. Les momies, signe de l'immortalité chez les Égyptiens notamment. Plusieurs études ont cherché à percer le secret de cette technique qui permet de conserver des corps pendant plus de 5000 ans. La dernière en date, on la doit à l'université de York qui a examiné une momie conservée au musée de Turin. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Alors que nous révèle cette étude ?
Alors à Turin, la momie du musée d'antiquité égyptienne est l'une des pièces marquantes au milieu d'une collection exceptionnelle, l'une des plus riches au monde. Les conservateurs ne savent pas grand-chose sur son histoire. L'ancien directeur du musée l'avait achetée en 1901. Elle vient de Haute-Égypte, au sud du pays donc. Et contrairement à la majorité des momies conservées dans les musées, elle n'a jamais subi de traitement de conservation, une aubaine pour les scientifiques. Elle est supposée avoir traversé les âges grâce à l'action desséchante du sable chaud et sec du désert égyptien. Pourtant, révèle l'équipe britannique qui vient de l'étudier à nouveau, il y a bien eu préparation du corps et embaumement grâce à 2 petits morceaux de tissu prélevés. Elle a obtenu une date et une recette. Les fibres de lin qui enveloppent le corps ont été imprégnées d'un mélange d'huile végétale, de résine de conifères chauffée, du pain, d'extrait de plantes aromatiques et d'une gomme ou d'un sucre d'origine végétale. Cette recette contient des agents antibactériens. La momie serait celle d'un homme de 20 ou 30 ans. Sa mort, selon la datation, a eu lieu il y a 5500 ans, ce qui signifie que le processus d'embaumement était maîtrisé 15 siècles plus tôt que ce qui était jusque-là admis.
Les joueurs de l'équipe de France de football, eux aussi, sont immortels. Un mois après leur titre de champion du monde, les Bleus occupent la première place au classement de la FIFA, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 2001. Les Bleus devancent la Belgique, le Brésil et la Croatie finaliste du mondial. L'Allemagne, qui était première de ce classement, chute à la 15e place après son fiasco en Russie. Quel visage pour la nouvelle Coupe Davis de tennis? La compétition, plus que centenaire et remportée par la France à 10 reprises, doit être réformée. La Fédération internationale se prononce aujourd'hui à Orlando aux États-Unis avec deux options, soit garder la formule actuelle avec quelques aménagements, soit tout changer, une sorte de Coupe du Monde sur une semaine pour la rendre beaucoup plus lucrative. Lors du vote tout à l'heure, une majorité des 2/3 sera nécessaire pour adopter la réforme. La France y est favorable. Une nouvelle fois, vous n'aurez que l'embarras du choix pour cette rentrée littéraire. 567 titres sur les étals des libraires. Une production cependant un peu moins importante que l'an passé, moins 2,4%. Mais l'un des faits notables, Ilana Mouriouf, c'est le nombre record de premiers romans.
Des noms attendus, il y en a, bien sûr. Jérôme Ferrari, le prix Goncourt 2012, Maïlys de Kerangal, Nina Bouraoui, Alain Mabankou et bien sûr Christine Angot. Et chez les étrangers, Salman Rushdie, l'Espagnol Javier Cercas, l'Islandais Ian Kalman Stephenson ou la Britannique Zadie Smith. Mais ce qu'il y a de plus notable dans cette rentrée resserrée, c'est le nombre record de premiers romans, 94, un quart des romans français de la rentrée. Cela fait 10 ans qu'il n'y en a pas eu autant. Certains sont de faux débutants qui se sont déjà illustrés dans d'autres genres, Marie-Aude Muraille, star de la littérature jeunesse, ou la nouvelliste belge Adeline Dieudonné. Mais il y a aussi des voix nouvelles, comme Esther Sarabulle, avec « Là où les chiens aboient par la queue », qui raconte l'enfance guadeloupéenne de toute une génération d'Antillais qui s'installeront en métropole dans les années 60.
Elle aussi a écrit une dizaine de livres, mais c'est surtout grâce à la musique qu'elle est devenue une star. Madonna fête ses 60 ans aujourd'hui. Une carrière riche de 13 albums studio vendus à 300 millions d'exemplaires. Madonna prépare un nouvel album dont la sortie est annoncée avant la fin de l'année. Quelle partition pour la météo de ce jeudi? Toutes les prévisions avec Sébastien Léas.
Cet après-midi, le ciel est généralement bien dégagé ou légèrement voilé sur la majeure partie du pays et les températures en profitent pour repasser au-dessus des 30 degrés, hormis près des plages de l'Atlantique. Sur les Pyrénées, les Alpes et les hauteurs de la Corse, des nuages bourgeonnent, pouvant aller jusqu'à donner des averses, voire des orages. Le risque d'orage est surtout marqué sur l'est des Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief de la Corse du Sud. Sur le nord-ouest, une perturbation arrive et il pleut entre le Cotentin et la Bretagne et l'ambiance se rafraîchit nettement, avec parfois moins de 20 degrés. Le Finistère retrouve progressivement des éclaircies, mais le ciel s'en nuages de plus en plus entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, apportant même quelques ondées cet après-midi. En soirée et en cours de nuit, ces ondées tournent parfois à l'orage en arrivant entre le centre-Val-de-Loire, le bassin parisien et les Hauts-de-France.